On va ouvrir la parole du Seigneur dans Néhémie chapitre 5, mais je vais prier, si vous voulez bien maintenant, avec vous, notre Seigneur. Il est dit dans Néhémie chapitre 5, verset 1er, mais nous allons prier avant, pendant que vous cherchez la référence. Seigneur, merci pour ce temps de prière, de louange. Merci parce que tu es là au milieu de nous ce matin. Et nous voulons vraiment prier, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit puisse nous conduire, que ton Saint-Esprit puisse nous diriger, Seigneur, que ta bonne main vraiment se pose sur nous ce matin, que nous soyons dans la joie, dans la foi, dans l'espérance toujours de te servir, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Et Seigneur, nous savons que tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu bon et tu nous veux, Seigneur, heureux, tu nous veux à tes pieds, Seigneur, également. Et je te prie que ce matin, mon Dieu, mon Père, tu puisses nous faire du bien. Tu puisses nous régénérer, tu puisses nous fortifier par le Saint-Esprit et que ta parole puisse trouver un écho favorable dans notre cœur, Seigneur, et que nous puissions vraiment t'adorer et te célébrer, notre Dieu, au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. On va lire dans Néhémie, chapitre 5, verset 1er. Voilà, nous allons lire. Alors, le contexte, Néhémie, chapitre 5, verset 1er, c'est un contexte particulier. Donc, Néhémie, c'est bien entendu un homme de Dieu. Nous savons qu'il était échanson du roi. Ce n'était pas forcément, un religieux dans le sens de sa fonction officielle. Il n'était pas un sacrificateur ou un lévite, ni même un scribe comme Esdras, puisqu'il y a eu Esdras et Néhémie au travers de ces vagues de retour après la déportation en Israël. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Néhémie était un homme qui finalement avait le souci de l'œuvre de Dieu, un homme qui avait à cœur l'œuvre de Dieu. Et on sait comment, quand il va apprendre, il va être informé de l'état spirituel des croyants en cette époque-là, il va pleurer, il va s'asseoir, il va pleurer. L'Écriture nous dit même qu'il va jeûner, il va chercher la face du Seigneur, il va se placer véritablement devant Dieu et Dieu va lui confier une mission. Si Esdras a eu la mission de rebâtir le temple, ce scribe, cet homme de Dieu, avec les fondations et tout ça, Néhémie, lui, va reconstruire la muraille de Jérusalem. Et bien entendu, comme toute œuvre de Dieu d'envergure, cette opération, ce travail, va rencontrer une certaine opposition. Et ce chapitre 5 se situe vraiment dans un contexte d'opposition. Sambala se moque d'eux, Sambala les méprise et chapitre 6 également, l'opposition à nouveau se manifeste. Il ne faut pas croire que la vie avec le Seigneur, c'est un chemin pavé de pétales de rose. La vie avec le Seigneur, quand on veut avancer, quand on veut aller de l'avant, eh bien, il y a des sambalas, des combats, et ça fait partie donc de la vie. Et Néhémie ici va faire face à une crise, je dirais, interne. Vous savez qu'il y a, en l'occurrence, le contexte, les crises externes. Il y a parfois des difficultés que nous rencontrons en lien avec l'extérieur. Et puis, il y a des difficultés internes. Parfois, c'est dans notre cœur que la guerre se situe, c'est à l'intérieur de nous que la guerre fait rage et le Seigneur désire eh bien, nous donner en tout temps sa victoire. Amen. Alors Néhémie, chapitre 5, il est dit ceci au verset 1er, « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Et Néhémie donc dit, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères. Et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendons-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Bon, on sait qu'il ne faut pas jurer, mais ici, il les fit jurer. Vous savez, Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Et il est dit, je secouai mon manteau de la même manière hors de sa maison et de ses biens. Tout homme qui n'aura point tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide, toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole, amen. On va faire une pause ici. Donc il y a une plainte importante qui s'élève au milieu du peuple. Et la raison est simple, c'est que le peuple tirait un peu la langue parce qu'ils avaient emprunté de l'argent, mais pas que, à leurs frères. Bon, on sait que vivre sous emprunt ou... c'est pas forcément recommandé par l'Écriture, mais ici, la Bible dit qu'ils avaient emprunté de l'argent à leurs frères et les frères avaient exigé de lourds intérêts. Et la parole de Dieu nous enseigne que le peuple de Dieu, les frères, ne devaient pas prêter de l'argent à leurs frères, en l'occurrence, avec intérêt. Et quand... Néhémie va entendre cela et va se rendre compte de cela. La Bible dit qu'il va être très irrité parce que ça générait des plaintes. En fait, il y avait de l'injustice, il y avait même de la désobéissance à Dieu et il va s'irriter intérieurement. Il va être colère. Alors il va faire venir les grands, les magistrats et il va leur demander raison de leurs actions. Il va rassembler une grande foule et là, il va leur montrer l'importance de ne pas agir comme ça parce que c'était un acte de désobéissance devant le Seigneur. Le peuple avait été racheté à l'époque. Et là, le peuple, à nouveau, alors qu'il avait été racheté des nations, il s'était vendu au mal pour faire le mal, il avait été racheté, mais à nouveau, il se mettait sous une forme de servitude, d'esclavage. Frères et sœurs, en passant, nous aussi, nous avons été rachetés d'entre les nations, nous dit la parole de Dieu. Amen. On a été rachetés de notre vaine manière de vivre. Mais vous voyez, je partageais cela hier en entretien avec des bien-aimés qui me posaient quelques questions. Et je leur disais en passant que parfois, quand on se convertit, on donne notre vie au Seigneur. L'Écriture dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand on a donné notre vie au Seigneur, le Seigneur nous a libérés, le Seigneur nous a délivrés. Mais voilà que parfois, à cause de certains enseignements, comme au temps des Galates, eh bien, nous revenons sous le joug de la servitude. Nous nous imposons à nouveau donc une certaine contrainte et nous ne jouissons plus d'une vie de liberté dans le Seigneur. Il y a différents esclavages. Et ici, le peuple était revenu à l'esclavage alors qu'il avait été libéré, racheté. La chair est un esclavage terrible. Oui. Si nous vivons selon la chair et que nous ne marchons pas selon l'esprit, eh bien, la Bible dit que nous allons mourir et que nous allons être esclaves. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais voilà, le Seigneur nous a donné la force, amen, de pouvoir vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, Néhémie, eh bien, va encourager les hommes de Dieu, les responsables, à rendre au peuple de Dieu ce qui leur avait pris, les intérêts, etc. Et il va restaurer la loi au milieu d'Israël, de la liberté, et ainsi ils vont louer le Seigneur. Alléluia ! Ils vont s'engager à rendre à leurs frères, à abandonner ce qu'ils devaient, et ainsi ils vont prendre un temps de célébration comme nous l'avons fait. Frères et sœurs, chaque dimanche, nous célébrons notre liberté. Amen. Chaque dimanche, nous célébrons le rachat de nos âmes. Chaque dimanche, nous célébrons notre Dieu qui est venu sur la terre et qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, qui nous a rachetés de nos péchés. Et c'est une grâce de pouvoir le faire. Amen. Je le disais tout à l'heure, il suffit d'être privé de liberté, de quelque chose d'ailleurs, pour en réaliser le bienfait. C'est une grâce de pouvoir aller et venir, oui ou non ? Quand on ne pouvait plus aller et venir, c'était vraiment compliqué, c'était vraiment pénible. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, on a retrouvé notre liberté. Ce que je note, c'est que Néhémie va être assez, pas raide, mais peut-être un peu sévère. Vous voyez, il est question d'irritation. Néhémie est irrité. Néhémie va exiger l'ordre. Il va exiger finalement une certaine obéissance. Assez radical. Il va dire, on l'a lu, je secouais mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Néhémie va faire preuve, en fait, de vigueur. Il va faire preuve d'autorité. Alors, on pourrait taxer ici Néhémie d'autoritarisme. Enfin, Néhémie, quand même, tu es assez raide. D'abord, il se met en colère. Vous savez, il y a des choses, des fois, qui devraient nous irriter. Il y a des choses qui, des fois, devraient nous faire bouger face à certains désordres. Des fois, on est un petit peu trop tendre avec le mal. Déjà, envers le mal que parfois nous tolérons dans notre propre vie. Je crois qu'on devrait avoir ce que certains appellent une tolérance zéro avec le péché. Amen. Devrions pas être trop gentils face à l'ennemi. Si nous ne marchons pas dans la crainte du Seigneur, dans la crainte de Dieu, d'ailleurs, nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur, mais à marcher dans la crainte de Dieu, si nous ne marchons pas dans la crainte du Seigneur, comme il faut, eh bien, comme le disaient un petit peu les dons tout à l'heure, nous donnerons à l'ennemi accès. Nous donnerons à l'ennemi le pouvoir ou l'autorisation, l'occasion de médire, comme dit la parole du Seigneur. Alors, il est important d'être droit, d'être intègre, d'être sans compromis. et de servir le Seigneur sans chercher notre intérêt. Néhémie, c'était non seulement un homme intègre, mais c'était aussi un homme vigoureux face au péché, mais c'était aussi un homme qui, face à l'argent, par exemple, ou face au service de Dieu, c'était un homme désintéressé, qui ne servait pas le Seigneur par intérêt. Il y a un verset dans l'Écriture qui dit que tous cherchent leur propre intérêt. Paul, à un moment donné, fera ce constat en disant « tous cherchent leur intérêt ». On peut chercher à se marier, on peut chercher à avoir une maison, on peut chercher à avoir je ne sais quoi, mais est-ce qu'on cherche les intérêts du Seigneur ? Est-ce qu'on cherche d'abord, toujours et encore, les intérêts de Dieu dans notre vie ? C'est important. C'est important de chercher les intérêts de Dieu. Et Néhémie va secouer son manteau et il va être très ferme et il va dire si quelqu'un ne marche pas sur ses traces, il sera également secoué ou en tout cas il doit être secoué et laissé à vide. Donc il est direct, il est direct. Ensuite, Néhémie va dire ceci, on voit ici au verset 14 le désintéressement de Néhémie. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Donc on voit son désintéressement, sa constance. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 sicles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. On voit ici également que Néhémie, avant lui, il y avait eu des serviteurs, mais pas forcément des bons serviteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils accablaient le peuple et ils recevaient de la part du peuple eh bien, de l'argent et ils opprimaient le peuple. Mais Néhémie n'agissait pas comme ça. Néhémie était un homme droit. Il ne cherchait pas, encore une fois, son intérêt. En fait, son seul souci, c'était le travail dans la maison du Seigneur. C'était le travail, son appel consistait à réparer la muraille et il s'est attelé à cela. Il s'est consacré à cela. Il y a quelques années de cela, le Seigneur m'a parlé. J'étais à mon bureau, je me rappelle, et il m'a dit « Levez-vous et bâtissez. Levez-vous et bâtissez. » Et c'est vraiment la thématique d'Esdras et Néhémie. Ils étaient des bâtisseurs. Et quand le Seigneur m'a dit « Levez-vous et bâtissez », vous savez, quand Dieu nous parle et qu'il nous montre quelque chose, qu'il nous montre une direction, on peut parfois hésiter et se dire « Seigneur, est-ce que ça vient de toi ? Est-ce que ça vient de moi ?» Comme quand on entend des paroles prophétiques, j'imagine que quand on se lève et qu'on vient au micro, c'est bien de se dire « Seigneur, je veux être sûr avant de parler que ça vienne bien de toi. » Parce que c'est important, on ne prend pas la parole de Dieu à la légère. Eh bien moi, je crois que Néhémie s'est consacré à ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Il ne s'est pas éparpillé, il ne s'est pas dispersé. Oh, il y a eu et il y aura. Il y a eu non seulement des oppositions, mais il y a eu aussi parfois de la diversion, des distractions. On a essayé de les distraire. Mais les gars, ils étaient concentrés. Ils étaient concentrés sur leur mission. Et notre efficacité, le résultat de notre service sera également le fait d'être concentré sur notre mission. Amen. Est-ce que tu sais que tu as une mission ? Est-ce que nous savons que nous avons reçu de Dieu une mission particulière, une mission qui vient de Dieu ? Et Néhémie s'est véritablement consacré à cela. Et il a travaillé à la réparation de la muraille. Parce que le peuple était exposé à l'ennemi. Et il y avait des accès et il fallait que le peuple soit protégé. Et donc il s'est levé, il a bâti. Il ne l'a pas fait tout seul. Il ne l'a pas fait seul. En fait, nous ne pouvons pas travailler seul. Néhémie ici conjugue son activité, son service. Il conjugue son service au pluriel. Souvent, il est question dans ce chapitre du « nous », de moi, de mes frères. Il mangeait à sa table plus de 150 hommes. En fait, Néhémie était non seulement un homme intègre, désintéressé, mais c'était un homme qui savait ou qui a su s'associer à d'autres. Il est dit au verset 17, « J'avais à ma table 150 hommes. » Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je crois qu'un des succès dans l'œuvre de Dieu également, c'est de savoir s'associer ou associer nos forces à d'autres. On ne travaille pas tout seul. On n'est pas tout seul. En fait, quand on pense être tout seul, d'abord on se trompe et on est dans l'erreur parce qu'on a besoin les uns des autres. Voyez, même Jésus, à un moment donné, notre Seigneur, eh bien l'Écriture dit qu'on est co-ouvrier avec lui. On est co-ouvrier. Il nous associe à son travail. Et l'Écriture dit que le Seigneur travailler avec eux. C'est pas bien ça? Le Seigneur travailler avec eux. Le Seigneur s'associe à l'œuvre de Saint-Étienne. Le Seigneur s'associe à notre œuvre. Il s'associe à notre action, à notre activité. C'est important que nous soyons des hommes et des femmes qui soient prêts à travailler avec d'autres. Et ainsi, à faire quoi ? Au final, Néhémie va réussir à ramener une certaine unité au milieu du peuple. Il y avait, en ce temps-là, donc on a entendu de grandes plaintes. Il y avait les uns qui disaient, d'autres qui disaient, et nous l'avons lu au verset 13, « Toute l'assemblée dit Amen ». Néhémie a su ramener l'unité. Néhémie a su ramener le consensus général. C'est toujours un problème quand il n'y a pas l'unité. Quand il n'y a plus l'unité. La force de l'Église, c'est son unité. La force du peuple de Dieu, c'est quand il est un. C'est une faiblesse. En fait, nous donnons accès au diable quand il n'y a plus l'unité. Quand on n'a plus les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quand il y a dans les cœurs des mauvais sentiments. Ça peut arriver. Des fois, on idéalise la première église. C'est important parce que c'est un peu le centre, la conclusion de ce que je veux dire. Mais s'il n'y a pas l'unité dans l'Église, s'il n'y a plus l'unité dans l'Église, il y a plein de choses qui vont dysfonctionner. Vous savez, quand il est dit, par exemple, dans les Actes des Apôtres, qu'ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut être un couple, par exemple, et avoir des opinions divergentes? Peut-être que vous êtes venu à l'église et vous vous disputez tout le temps. Vous vous querellez. Ça peut être dans les couples, mais ça peut être entre les couples et les enfants. Parfois, il y a des enfants qui sont rebelles. D'ailleurs, c'est un signe des temps de la fin. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Et Néhémie, par son ministère, ce qu'il a su faire, c'est ramener l'unité. Il a su ramener le consensus général. Frères et sœurs, c'est glorieux quand il y a l'unité dans l'Église. C'est glorieux quand il y a l'unité dans les familles. Vous savez, il y a un verset qui me parle beaucoup. Parce qu'il n'y a pas que des discordances ou des dissonances d'émotions, de relations. Ça arrive, hein, Évodige, Saint-Tiche, Abel, Caïn qui a tué son frère, ça arrive. Et ça peut arriver dans la première Église, puisque l'apôtre Jean dira que nous ne devons pas ressembler à Caïn qui a tué son frère. Et ça, vous savez comme moi qu'on peut tuer, on peut se tuer par des paroles. Il est dit du temps de Jérémie, le prophète, tuons-le avec la langue. Ça arrive. Il y a des paroles qui blessent, il y a des paroles qui tuent, il y a des paroles qui sont des poisons mortels. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut être élevés au-dessus d'eux. Et Néhémie a été un serviteur de Dieu efficace, pas parce que c'était un super prédicateur, mais c'était un homme d'autorité. C'était un homme qui a su imposer l'ordre divin au milieu de l'assemblée en disant « c'est comme ça que ça doit être ». Mais ce n'était pas ses opinions personnelles. Il a ramené le peuple à la parole de Dieu pour que chacun dise qu'il en soit ainsi. Des fois, il y a aussi d'autres sources de discorde. Les discordes de point de vue de doctrine. Vous voyez ? Il y a des gens qui ont des convictions en matière de doctrine. Il y a parfois des divergences en matière de pratique aussi. Certains pensent qu'il faut louer le Seigneur debout, d'autres préfèrent rester assis. Et ça a été, et ça l'est encore aujourd'hui, des chrétiens qui regardent plus à l'extérieur qu'au fond. Oh, il y a trop de bruit dans cette église. Depuis que je suis là, j'entends que ça. Je vous assure. Il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Et pourquoi ? Parce qu'on regarde à la forme et pas au fond. Vous savez, si vous voulez regarder ou vous voulez trouver des choses qui ne vont pas, dans une église ou chez quelqu'un, vous en trouverez toujours. Et quand des fois quelqu'un vient me voir en me disant certaines choses, je discerne derrière la chose qui est dite d'autres choses. C'est l'arbre qui cache la forêt. Comme on disait en fait, quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. C'est-à-dire que quand on n'aime pas quelqu'un, quand on n'aime plus quelqu'un, quand on a des mauvais sentiments, quoi que la personne fasse, ça sera toujours mal. Bon, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce que je dis, c'est vrai. Quand on n'aime pas quelqu'un, quand on n'aime plus quelqu'un, quand on a une dent contre quelqu'un, même si la personne fait du bien, on ne s'en rendra pas, même pas compte. Vous voyez, des fois, dans une prédication, il y a des gens, je vous le dis, qui ont des fois passé et repassé mes prédications à plusieurs reprises, on me l'a dit, pour dire, tu vois, il parlait de nous, là. Mais c'est grave quand on en arrive là. Je vais vous dire pourquoi. C'est un peu comme la feuille blanche avec un point noir. Quand on retient que l'aspect négatif, vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai d'autres choses à faire que de chercher à régler mes comptes du haut de l'estrade. Pour moi, ce qui compte, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et vous voyez, pour moi, la révélation ce matin, c'est toute l'assemblée dit « Amen ». On l'a lu au verset 13. Des fois, on lit vite la Bible. Mais au verset 13, il est dit « Toute l'assemblée dit « Amen ». Mais avant la réunion, ce n'était pas « Amen hein ». Avant la réunion, c'était les uns disent, d'autres disent, les magistrats, les grands d'un côté. Néhémie va prendre tout cela et il va dire maintenant, il faut se mettre au diapason. Il faut se mettre en harmonie parce que le Saint-Esprit ne viendra jamais dans un couple, dans une famille. Vous savez pourquoi la famille de Philippe était bénie, il y avait des dons spirituels et tout ça? Parce que dans la famille de Philippe, il y avait de l'unité, il y avait de l'amour. Il y avait l'honneur à la parole de Dieu. Et il faut honorer la parole de Dieu. Et même, je dirais, il faut honorer tout le monde. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas, parce que je vous entends penser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couvrir. La Bible dit « l'amour couvre une multitude de péchés ». Mais le rapporteur, qu'est-ce qu'il fait? Il divise les amis. Pourquoi? Parce qu'il va rapporter. Et vous savez, il y a quelque chose qui est bon pour la chair, mais ça donne des caries. Eh bien, ce sont les rapportages. Les rapportages, c'est des friandises. Ah ouais, il a dit ça. Ah ouais, il fait ça. Ah ouais, t'as entendu ça du pasteur, du frère qui fait chanter. Ah ouais. Mais vous voyez, Dieu entend ça. Dieu entend. Et après, vous vous dites, mais je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Dans ma vie, en ce moment, j'ai comme perdu quelque chose. Eh bien, retrouve l'amour dans tes yeux. Retrouve cette capacité, demande à Dieu de faire de toi un artisan de paix. Ne tolère pas qu'il y ait dans ta vie, dans ton cœur, des pensées mauvaises, des paroles mauvaises, des paroles de mort à l'égard des uns et des autres. Dieu ne bénira jamais les critiqueurs, jamais. Je peux vous garantir que les ministères, les frères comme les sœurs que je connais, qui ont encore l'onction et qui sont encore utiles au royaume de Dieu, ce sont des gens qui ont banni de leur vie la critique. Vous savez, le diable s'en charge. Il s'en charge d'attaquer. Il s'en charge de mépriser les Sambala, les Tobija. Il s'en charge. Et on n'en a pas besoin au milieu de nous. Vous êtes d'accord? Alors, que ce soit de la discorde sur les plans relationnels, sur le plan familial, etc., que ce soit de la discorde pour des points de doctrine, que ce soit l'expression pratique de la vie d'Église ou encore la matière à croire, parce que là aussi, il y a parfois des fausses doctrines. Et là, l'apôtre parle de la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Et des fois, on m'envoie des prédications. Je vais taire les noms, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait sur Internet. Même s'ils ont 1 million de vues, je m'en fous. Ce n'est pas ça qui compte. Moi, j'ai compris que ce n'est pas les vues qui comptent. C'est d'être vu de Jésus. Maintenant, donc il y a des gens qui, des fois, disent des choses bien, mais quand vous les voyez vivre ou les pratiques qu'ils ont, eh bien, ce ne sont plus des pratiques qui sont conformes à la parole de Dieu. Et ce n'est plus la foi une foi pour toutes. Mais on rajoute des choses qui sont subtiles, mais qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Par exemple, dans Acte 15, les premiers disciples vivaient dans la paix. Mais un jour, il y a des gens qui se sont élevés, parce que vous voyez, on peut s'établir, on peut s'auto-proclamer, sans suivre de formation pastorale, par exemple. Sans être à côté de quelqu'un et écouter avant de parler, regarder aussi et apprendre par l'exemple. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont commencé à dire, ils étaient convertis au christianisme, mais ils venaient du judaïsme. C'était des bons religieux et ils ont commencé à dire que pour pouvoir être sauvés, il fallait être circoncis. Et ça troublait l'Église primitive. C'était des enseignements, des faux enseignements qui troublaient les premiers chrétiens. Donc les apôtres se sont réunis. Ils se sont réunis, les frères, les anciens, les apôtres, l'Église. Et puis ils ont commencé à parler, à discuter sur le sujet. Et la Bible nous dit que les voix telles que Pierre, Jacques, l'apôtre Paul se sont élevées et ont réglé le dossier pour ramener le consensus général. On va être bien dimanche prochain, parce qu'on va être tous ensemble. Ouais, mais il y en a, ils sont, encore une fois, on est tous ensemble, mais est-ce qu'on est vraiment ensemble ? Dans nos cœurs. Est-ce qu'on est vraiment ensemble à l'intérieur ? Est-ce qu'on n'est qu'une âme et qu'un cœur ? Ou est-ce qu'on est là en train de se juger, de se critiquer ? Voyez, dès qu'on a tourné le dos, on rigole, hein ? Mais on attriste le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu attristes le Saint-Esprit ce matin. Et quand tu fais ça, j'aimerais te dire que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit que tu attristes, c'est le diable que tu invites. Parce que le contexte d'attrister le Saint-Esprit, juste après, l'apôtre Paul dit « et ne donnez pas accès au diable ». Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. S'il y a des choses dans ton cœur qui ne sont pas traitées, eh bien, tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois faire un travail personnel pour que le Seigneur te change, te transforme et te libère en profondeur. Frères et sœurs, ne tolérons pas les fausses notes. Ne les tolérons pas. Allons jeûner s'il faut, allons prier s'il faut, allons demander pardon s'il faut, mais ne le tolérons pas. L'Église primitive a eu des crises. L'Église de Saint-Étienne et toutes les églises du monde entier ont des crises. Mais vous voyez, les crises de foi, sans le E, ça se règle. Ça se règle. Ça se règle par l'amour. Ça se règle au pied du Seigneur. Ça se règle dans la repentance. Ça se règle par le renouvellement du Saint-Esprit. Et ils diront, les premiers apôtres, les premiers disciples, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Il y a eu un travail de fait. Qu'on puisse dire, nous aussi, dans notre assemblée, il y a non pas une uniformité, mais une unité d'esprit. On a le droit de penser différemment. On a le droit d'aimer les vieux cantiques. Moi, j'ai l'impression d'être un rétrograde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je reviens aux vieux cantiques. Mais j'aime quand même Michaël. Je le supporte. Mais chez moi, j'ai essayé de chanter ces cantiques, de prendre ma guitare. Je suis déjà has-been. J'arrive pas à les faire. Donc j'ai repris les vieux cantiques à trois temps, là, et puis allez, on y va. Et j'édifie ma foi. Mais vous croyez quoi, vous les jeunes, là ? Dans 20 ans, 40 ans, vous chanterez pas les cantiques de vos jeunes. Non, vous arriverez pas. Parce que c'est. Mais il faut se faire tout à tous. La Bible dit que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Nous, c'est pas la 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 et la, c'est aïe 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 aïe. Que Dieu nous aide à être des rassembleurs et d'amener les gens à dire Amen. Alors, je ne sais pas si tout le monde dira Amen ce matin, mais mon frère, ma sœur, je te conseille de tout mon cœur de dire Amen. Et de nous rejoindre dans la grande aventure de la foi et de rechercher l'unité, de rechercher l'amour. Il faut rechercher l'amour, il faut désirer l'amour, il faut aimer encore et encore. Alléluia ! Alors moi, ce matin, je veux être un Néhémie et je veux être un gars qui va ramener l'unité dans l'Église, qui va ramener l'unité au sein du peuple de Dieu. Je ne sais pas si c'est toujours facile à faire. Vous voyez, à un moment donné, Paul va dire « J'exhorte Évotiche et Saint-Tiche à être d'un même sentiment ». Paul s'est défié, Paul a toujours combattu dans la bonne direction. Eh bien, que le Seigneur nous aide aussi ce matin à dire un grand Amen et à être visité par le bon Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu ? Amen. On va se mettre debout dans la présence de Dieu. Les musiciens vont me rejoindre. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu d'unité. Il n'y a pas, même chez toi, Seigneur, il n'y a pas de division entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tu ne veux pas que ton peuple soit divisé. Tu ne veux pas que les familles soient divisées. Mais tu vois le diable qui, finalement, cherche toujours à entrer, à pénétrer, à susciter des mauvais sentiments, des mauvaises choses. Seigneur, je te prie, mon Dieu, afin que ce matin, par ton Saint-Esprit, tu puisses venir susciter un renouveau dans l'amour, que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions mettre de côté, Seigneur, les mauvaises langues, les critiques acerbes qui font que blesser et qui ne construisent pas le royaume. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait tous les ingrédients au milieu de nous afin que le Saint-Esprit puisse continuer à souffler et que tous les éléments de discorde qui peuvent exister, Seigneur, soient bannis de nos cœurs. Merci de nous aider, Seigneur, à faire ce travail, à être vraiment une Église unie et à fermer nos oreilles à toutes les paroles négatives et à tous les cœurs négatifs. Seigneur, je te dis merci parce que tu agis ce matin. Tu agis dans les cœurs et tu fais de nous des Néhémies, Seigneur. Tu fais de nous des rassembleurs afin que l'Assemblée dise un grand Amen et loue le Seigneur. Hallelujah, Amen et Amen.